Bonsoir. On va commencer. Salam alaikum. Je l'ai mal entendu. Salam alaikum. Maintenant, collez-nous aux musulmans, s'il vous plaît. Salam alaikum. C'est bien, l'intégration à l'inverse, c'est très bien, on aime ça. Merci beaucoup d'être présents aussi nombreux. Je vais juste faire, en fait, il va y avoir la traduction for English people, you know, and all the others. Translation will be there. I just gonna do a test to see. Et si je dis Allahu Akbar, la régie, il se passe quoi, s'il vous plaît, là? Il est partout. Ce petit problème technique réglé, je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Comment ne pas commencer par les remerciements, justement? Et en premier lieu, le DIN, le Decolonial International Network. Merci beaucoup au DIN pour l'organisation de cet événement. Il fallait le faire, il fallait commencer à réunir, commencer à construire et continuer à construire aussi les rencontres et les ponts entre les indigènes du Nord, des passerelles entre les mouvements décoloniaux. Donc ce soir est une première pierre à l'édifice d'un mouvement transnational qu'on espère encore plus grand. Merci beaucoup aussi à tous les intervenants qui parfois ont fait les déplacements de loin, des États-Unis, d'Angleterre, du Sénégal, d'Allemagne, d'Espagne, et d'ailleurs, qui vont de ce soir à dimanche partager des analyses, partager des stratégies pour faire face à ce monstre hybride qu'est le racisme d'État, que sont l'impérialisme et le colonialisme. Merci. Comment ne pas les nommer aussi, puisqu'ils seront les mains et les mains organisatrices de cet événement, à tous les organisations, les militants, les bénévoles qui s'évertueront à rendre ce moment plus simple et plus facile pour tout le monde et, je l'espère, beaucoup plus agréable. Ce soir, vous êtes nombreux, il y a ceux aussi qui ne sont pas là, donc il fallait aussi leur rendre hommage, hommage au peuple en lutte partout, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, aux peuples qui luttent contre la spoliation de leurs terres, la spoliation de leurs biens, la spoliation de leur dignité, aux peuples qui résistent partout au colonialisme, à l'impérialisme, au racisme d'État. Hommage aux frères aussi et aux sœurs incarcérés partout, de New York à Londres, en passant par Soweto, Villepinte et chez les Kardashians. Hommage enfin à tous les militants et toutes les organisations de l'antiracisme politique, de ce que nous on appelle ici l'antiracisme politique, à tous ceux qui construisent et alimentent des mouvements décoloniaux partout dans le monde. Sur l'organisation de ces trois jours, rappelez la première chose, c'est que c'est un événement organisé en toute autonomie, en toute indépendance, et donc nous comptons sur votre participation financière. Il y a des boîtes, alors je ne sais pas où elles sont, mais qui vont circuler tout le long du week-end. N'hésitez pas à donner. J'ai vu dans les inscriptions des mails parfois avec des adresses @BNP Paribas, etc. Donc on sait très bien qu'il y a de l'argent ici, donc n'hésitez pas à partager. Voilà, elles sont là, les boîtes. Sinon, on va devoir envoyer des mails à ces personnes-là, et évitez-nous ça. Donc voilà, ça passera. L'autre manière de contribuer aussi, c'est qu'il y a de la nourriture, comme on vous le disait, il y a de la nourriture palestinienne, il y a des mafés, il y aura du couscous, du tieb, etc. Donc n'hésitez pas aussi à consommer sur place. C'est aussi pour nous une manière de rentrer dans nos frais, dans les lourds frais de l'organisation. Sur la question des médias, enfin, on a incrédité certains médias qui sont présents ici ce soir. Il y en a sûrement d'autres qui se sont glissés, envoyés par le printemps républicain, etc., etc. Bref, vous savez très bien. Donc il y en a sûrement d'autres ici. Voilà, on rappelle que la seule parole officielle est la parole des organisateurs. Après, libre à tout à chacun de répondre, mais en tout cas, la parole du Bandung du Nord est portée par les intervenants du Bandung du Nord. Et enfin, sur le programme, c'est un très riche programme que nous vous proposons. Ça prendra de front des questions qui traversent les vies, les parcours, les mouvements animés par les indigènes du Nord, donc sur le racisme intercommunautaire et la manière dont sont instrumentalisés certains racismes contre d'autres communautés, sur le féminisme, sur la modernité, sur les alliances avec la gauche, sur le racisme d'État, évidemment, sur l'impérialisme. Donc, vous avez le programme, il est affiché. N'hésitez pas à le regarder. Il y a des places encore dans certaines plénières. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil pour savoir où vous pouvez participer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci infiniment, encore une fois, d'être venu. Je vous souhaite un Bandung riche, un Bandung dense, un Bandung qui vous permettra de poser des questions, de répondre à certaines d'autres et qui permettra de nourrir toujours un peu plus les mouvements décoloniaux.
Welcome Nasira Genif, who is a sociologist, yeah, and a professor at the Paris 8 University, and very activist, you know, in decolonial movements and anti-racist and feminist movement. Thank you very much.
Bonsoir. Il marche. Oui. Bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à cette... Oui, je crois qu'il faut changer de micro, c'est ça? Il faut que je le penche comme ça? Voilà, oui. En fait, il faut avoir une posture un peu de crooner ou d'artiste. Bon, je vais essayer de m'identifier un instant. Alors... Ma contribution, en fait, elle porte sur l'interrogation qui nous réunit ce soir, sur le fait que la colonialité ne participe pas du passé, mais elle est bien notre présent, et qu'il nous revient aujourd'hui de déconstruire, de déployer, de déjouer cette illusion selon laquelle nous serions dans un présent qui serait postcolonial, même si c'est le cas en partie, mais il y a bien quelque chose à décoloniser. Et c'est ce qui est en quelque sorte notre vocation et notre mission aujourd'hui et pour demain, absolument. Donc parler à Saint-Denis, qui est aussi l'endroit où j'enseigne d'ailleurs, pas très loin d'ici, en cette circonstance nous oblige, puisque nous sommes invités à nous inscrire dans le sillage de ce tournant historique que fut la rencontre, voici 60 ans à Bandung, de 29 pays. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas allés voir, je vais les citer. Je ne fais pas ma preuve d'histoire, hein, ce n'est pas du tout ma discipline. Mais je pense que c'est important d'entendre résonner ces noms. Afghanistan, Cambodge, République populaire de Chine, Égypte, Éthiopie, Côte de l'Or, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Libye, Népal, Philippines, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Siam, Turquie, République populaire du Vietnam, Viet Minh, État du Vietnam et Yémen. Autant d'États qui étaient invités par la Birmanie, Ceylan, l'Inde, l'Indonésie et le Pakistan. Si aujourd'hui nous refaisions la cartographie de ces pays, nous nous apercevrions qu'ils sont dans des États radicalement différents d'une certaine manière, qu'ils ont suivi des parcours qui les ont amenés pour certains à devenir des dictatures, pour d'autres à être complètement ensevelis sous les bombes, et pour d'autres encore à avoir en quelque sorte perdu le sens et la voix de ce qui les avait animés lorsqu'ils étaient ensemble à Bandung. Et pourtant, ils allaient fonder le mouvement des non-alignés et susciter un immense espoir que le vent mauvais qui souffle depuis quelques décennies n'a pas encore réduit en cendres. Cela exige de se présenter, je crois, lorsqu'on est face à cette histoire-là, en quelques mots, autant pour savoir à quel titre parler que pour introduire ce qui va venir dans mon propos, c'est-à-dire ce que nous aspirons à faire, ou du moins je l'espère. Le moment, dans toute sa gravité, fait obligation de préciser les motifs personnels et les liens collectifs qui permettent que l'on se tienne ici, ensemble. Ce n'est ni par excès d'humilité, ni par manque d'imagination que je m'astreins à cet exercice, mais parce que précisément l'instant nous porte à l'humilité, à l'horizon des possibles dont dépend notre puissante imagination. Aussi, je souhaite situer les raisons qui m'amènent à me tenir ce soir devant vous. Je pense que c'est un exercice que chacun et chacune, et plus souvent qu'à notre tour, il est important que nous fassions. À Bandung, en avril 1955, l'Algérie n'était pas présente en tant qu'État, car son peuple luttait pour son indépendance contre l'ordre colonial français. Elle était éclairée notamment par la pensée de Frantz Fanon, mais d'autres aussi. Aujourd'hui, il revient à ses descendants et descendantes algériennes et algériens en Algérie et partout ailleurs, parmi lesquels je me trouve, de relever le défi que l'État algérien n'a pas su ou voulu relever. Reste à savoir comment contribuer sans rien imposer aux premières concernées, comment faire à partir d'ici, de là où nous nous trouvons. Et c'est la question que je me pose, notamment pour qu'un jour l'Algérie soit de nouveau partie prenante et partie entière de l'Afrique, à laquelle elle a souvent tourné le dos. Née en France durant la guerre d'Algérie de parents indigènes nés sous le joug colonial ils sont nés au début du XXe siècle, je suis située dans ce nord qui, pas plus qu'il n'a ménagé mes parents, réduit à l'indigénat, il ne m'a attendue, accueillie et ménagée. J'ai appris de cette âpreté et des rejets qu'elle suscitait, comme vous toutes et vous tous, à ne rien céder, à tout m'autoriser, à repousser toujours plus loin les limites de ce qu'il était nécessaire de faire. Aussi, je ne suis pas du Nord. J'y suis par la force des circonstances et parce qu'il est temps qu'il soit changé de fond en comble pour ne plus prospérer sur les vestiges de tout ce qu'il a arraché ailleurs et aux autres jusqu'à présent. C'était donc bien du présent colonial qu'il est question. C'est de ceci qu'il faut aujourd'hui parvenir à prendre la mesure et qu'il est temps de décrypter, de cartographier, en commençant par affirmer que moi, comme vous, toutes et tous, nous faisons partie de la solution, car nous n'avons jamais été le problème. Être à la hauteur de ce souffle, ça nous implique, ça nous impose de comprendre en quoi et pourquoi nous sommes ici ce soir. Donc je vais essayer de proposer comme ça des hypothèses sur les raisons pour lesquelles nous sommes réunis. Si nous sommes ensemble ici ce soir, c'est que nous avons pris la mesure des mensonges et des trahisons dont nous avons été l'objet, quelle que soit l'histoire qui est la nôtre et quels que soient les lieux auxquels nous sommes attachés. prendre la mesure de ça, c'est aussi effectivement comprendre en quoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de dépasser toutes les formes de division, toutes les formes de diversion auxquelles nous sommes exposés journellement, systématiquement, à la fois par celles et ceux que nous côtoyons, mais aussi par un pouvoir qui a tout intérêt à ce que nous soyons, d'une certaine manière, réduits à l'impuissance, et par des médias qui n'ont de cesse de nous expliquer la vie à notre place et de parler à notre place. Si nous sommes ici ce soir ensemble, c'est que, ayant compris que l'heure des trahisons devait être enfin achevée, nous pensons qu'il est possible de penser par nous-mêmes, de faire entendre nos voix et de faire entendre les voix de celles et ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, et ça risque de continuer encore, sont réduites au silence. Ces voix que personne ne veut entendre parce que ce sont celles de femmes qui portent le voile, parce que ce sont celles d'élèves qui sont en train d'être orientés à la baisse et de réduire à des carrières scolaires qui vont les emmener à l'échec et à l'abandon de toutes leurs aspirations. C'est que nous sommes aussi là pour faire entendre les voix de celles et ceux qui ont traversé les océans et qui aujourd'hui attendent de pouvoir mener une vie digne dans nos pays. Et pour les avoir accueillis à Paris 8, ces exilés, il est important que nous soyons à leur côté au moment où une loi complètement régressive, une loi qui va les accabler encore plus, la loi Asile et Immigration, est en train d'être votée. C'est le moment, effectivement, de nous tenir à leur côté et de faire entendre nos voix et de faire comprendre ce qu'elles et ils ont à nous dire. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons compris que les logiques policières continuent à se perpétuer parmi les nôtres sont des logiques qui ont vocation à nous intimider et à nous réduire au silence. Même si nous n'en sommes pas directement destinataires, et les femmes, fussent-elles racisées, savent effectivement qu'elles sont encore épargnées. Mais pour combien de temps ? C'est parce que nous savons que ce traitement-là finira par nous atteindre qu'il faut être beaucoup plus radical dans les modes de dénonciation de l'État policier, de l'État qui a fait passer dans le droit commun en France le système de l'exception à travers l'état d'urgence permanent. C'est contre cela aujourd'hui qu'il faut parvenir à lutter et contre cela qu'il faut faire entendre la voix de celles et ceux qui ne renoncent pas à leur liberté et à leurs attachements. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce soir, c'est parce que, pendant que les embargos continuent à affamer et à réduire à l'impuissance et à la vulnérabilité des populations entières de par le monde, ça a été le cas de Cuba, ça a été le cas de l'Irak, et on sait vers quoi ça a mené à des guerres. Si nous sommes ici, c'est parce que ces embargos qui sont pratiqués en notre nom à l'extérieur, au nom d'une certaine civilisation occidentale, ils ont leur pendant à l'intérieur, dans les sociétés du Nord, et leur pendant, c'est précisément le maintien d'inégalités structurelles qui sont insupportables parce qu'elles se jouent à tous les niveaux de l'existence et durant toute l'existence de nos concitoyens, des habitants de ces régions du monde. C'est aussi bien dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, dans l'accès à toutes les formes d'expression. Toutes ces manières de faire aujourd'hui, ce sont des logiques d'incarcération à ciel ouvert. C'est la façon de pratiquer à l'intérieur un embargo sur les droits. C'est une façon de nous priver de tout ce qui nous revient. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous faisons cette expérience-là, fût-elle aussi limitée. Il nous revient aujourd'hui, en tant que membres d'une société qui veut que la racisation ne soit plus la règle, mais soit définitivement éradiquée de nos vies, il nous revient aujourd'hui de parvenir à faire entendre une intransigeante voix qui dit qu'il n'est plus possible de maintenir dans un état d'expropriation la partie de la population qui est considérée comme illégitime, au prétexte qu'elle a une certaine couleur de peau, au prétexte qu'elle a une certaine sonorité au niveau de son nom, au prétexte qu'elle a certaines positions politiques et au prétexte qu'elle s'est autorisée enfin à dénoncer le système raciste, systémique et au niveau de l'État, qui aujourd'hui a décidé de la priver de ses droits. Donc, hier comme aujourd'hui et comme demain, ce vers quoi nous devons tendre, c'est de refuser ce qui nous est proposé, c'est-à-dire un marché de dupes qui voudrait nous offrir des miettes contre toutes les compromissions que nous serions prêts à faire. Et je fais le pari que si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons déjà franchi le pas du refus de ces compromissions, du refus de ces illusions dans lesquelles nous sommes encore entretenus, et le fait, effectivement, de décider d'être enfin souverain dans nos vies et de réclamer tout ce que cette souveraineté doit nous apporter. Je finirai sur ces lieux du Nord qui sont dans le Sud et qui sont aujourd'hui particulièrement exposés à des formes d'inégalité et d'injustice. Je pense notamment à tout ce qui se joue aujourd'hui par rapport à la Nouvelle-Calédonie et à la Kanaky, qui demain... qui, alors que nous parlons, voit arriver sur son territoire un président qui semble croire que l'arrogance coloniale peut continuer à s'exprimer impunément et qui voudrait porter atteinte à l'intégrité du peuple kanak en imposant sa présence auprès du mémorial des 19 kanaks qui ont été assassinés lors de l'assaut militaire le 5 mai 1988. À la grotte d'Ouvéa. C'est contre cela aussi que nous devons nous élever, parce que nous avons une responsabilité à l'égard de l'accès à la souveraineté du peuple kanak, et cela va être rappelé au cours des deux journées qui viennent. Je voulais aussi insister sur cette forme de souveraineté qui aujourd'hui s'ouvre à nous, et qui est aussi la nôtre, qui consiste plus seulement à réclamer l'indépendance, mais à réclamer une capacité à décider pour soi. Dans des États comme ceux dans lesquels nous nous trouvons, notre enjeu n'est plus celui de notre indépendance en tant que peuple, notre enjeu, c'est celui de notre souveraineté, de notre indépendance en tant que collectif racisé et en tant que minorité opprimée. Et c'est de ce point de vue-là aujourd'hui qu'il nous faut agir et qu'il nous faut agir aux côtés, y compris de celles et ceux qui vont réclamer leur pleine souveraineté et leur indépendance. Et je finirai sur la question qui nous préoccupe toutes et toutes, qui est la question de la Palestine, puisque nous sommes en plein dans cette réactivation de l'oppression du peuple palestinien. Au moment où nous nous parlons, encore aujourd'hui, des Gazaouis se sont fait tirer dessus. Et je pense que nous avons un devoir de comprendre en quoi est-ce que les revendications qui sont portées là-bas, même si elles ne sont pas les mêmes que les nôtres, doivent résonner dans nos luttes et être présentes en permanence dans ce vers quoi nous tendons et ce vers quoi nous luttons. Pour conclure, je voudrais vous citer juste un extrait d'un texte qui m'a beaucoup habité. C'est dans un livre de Toni Morrison qui raconte l'histoire d'une femme qui est esclave, réduite en esclavage, et à la fin, elle propose, cette femme esclave voudrait dire à son enfant, voudrait lui faire comprendre la chose suivante. Avoir le droit de prendre l'ascendant sur quelqu'un d'autre, c'est une chose terrible. Forcer l'ascendant sur quelqu'un d'autre, c'est une chose qui doit être combattue. Mais donner l'ascendant sur soi à une autre personne, c'est une malédiction. Il nous reste effectivement à lutter contre toutes les formes qui voudraient prendre l'ascendant sur nous et à ne jamais céder aux tentations de les laisser faire.
Non, s'il vous plaît, je vais le redire et vous allez réapplaudir parce que Mskina, elle se fait tellement ragard partout dans la presse. Et je crois qu'elle a jamais eu des... C'est rare les accueils comme ça, donc on va le refaire, on va dire. Enfin, non, refais ton plaisir. d'autant plus nécessaire et ça fait d'autant plus plaisir que je pense que vous n'avez pas raté la campagne, l'offensive médiatique contre les indigènes de la République, contre l'antiracisme politique, contre Ouria Boutelja en particulier. Du coup, merci pour elle, merci pour votre accueil.
Merci. Bonsoir et salam alaikum. Wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis contente d'avoir une intervention courte puisque l'essentiel a été dit et vraiment j'ai été impressionnée par ce qui s'est dit. Alors, je voulais dire mon honneur d'être ici ce soir, mais aussi l'honneur que nous font... Est-ce qu'on... Non, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Censure. Non, là, il n'est pas bon, là. Ah, non, celui-là, il est mieux.
Je crois que c'était un complot du printemps républicain.
C'est bon, là ? C'est mieux, non ? Ouais. Donc, je voulais dire mon honneur d'être ici ce soir, mais aussi l'honneur que nous font ces trois prisonniers politiques de parrainer ce Bandung du Nord. Moumia Boujamal, Léonard Pelletier et Georges Ibrahim Abdallah. On aurait pu ajouter Salah Hamouri, actuellement en prison en Israël. Ou Marwan Barghouti, tous prisonniers politiques. Tous non-blancs, tous enfermés dans les geôles des grandes démocraties occidentales. Tous victimes du racisme d'État, qui a l'impérialisme chevillé au corps. La traduction est ici. C'est eux qui sont en prison et ils nous soutiennent, nous qui sommes libres. C'est d'une incroyable générosité. J'espère que nous serons à la hauteur de l'honneur qu'ils nous font. J'ai évoqué ces trois hommes. Je voudrais évoquer trois femmes qui, heureusement, ne connaissent pas le même sort. Mais tout de même, en Occident, les femmes issues de l'histoire coloniale, on les aime libres, parce qu'on les suppose soumises. C'est tout à l'honneur des amoureux de la liberté, mais le paradoxe, c'est que lorsqu'elles sont libres, véritablement libres, qu'elles agissent, qu'elles militent, qu'elles se battent, eh bien, elles sont vilipendées, diffamées, voire écrasées. Ces trois femmes sont Maboula Soumaoro, qu'on a traitée de guenon, Maboula Soumaoro, qu'on a traitée de guenon, Rokhaya Diallo, qui est ici, et Daniel Obono. J'aurais pu ajouter Siham Azbag, Ismaël Chouder, parce qu'elle porte le foulard, ou moi-même. Nous avons toutes été traînées dans la boue, dans la presse mainstream et par une grande partie de l'intelligentsia française pour avoir osé être libres et prendre en main notre destin. Et si je m'attarde sur cela, c'est qu'évidemment cette situation à l'intérieur du Nord n'est pas nouvelle. Notre marraine du soir, Angela Davis, en avait elle-même fait les frais lorsqu'elle était poursuivie par le FBI, toute proportion gardée, bien évidemment. Aussi, s'il y a une chose que je voudrais rappeler ce soir, c'est le conseil de notre grand frère Frantz Fanon qui nous enjoignait, il y a 60 ans, d'identifier notre mission, de l'accomplir ou de la trahir. Si Mumia, Léonard et Georges sont actuellement en prison, si ces femmes sont traînées dans la boue, c'est qu'ils et elles ont identifié leur mission, qu'ils tentent de l'accomplir et surtout refusent de la trahir. Pour ce faire, et c'est le grand message de ce Bandung du Nord, il est temps de reconnaître notre mission, d'abord anti-impérialiste et décoloniale, de nous unir au-delà des frontières, de participer, comme toutes les forces de résistance, à l'alternative politique à l'intérieur du Nord, de comprendre et faire comprendre que nous ne serons jamais un problème, mais une partie de la solution. Et je vous remercie.
D'abord, je veux vous dire que la peinture ici, c'est de Leonard Peltier. Et je veux dire que c'est un très grand plaisir d'être avec vous ici ce soir. And I'd like to thank the Decolonial Network, the International Decolonial Network, and specifically Huria Buteja and Ramon Grossfogel for inviting me to participate in this historic conference, Bandung du Nord, which has as its announced goal the creation of a decolonial international. I am honored to join all of the speakers and participants as you reflect on ways to generate relations of solidarity against racism, xenophobia, heteropatriarchy, colonialism, militarism, and the multiple and ever-present threats emanating from global capitalism.
Alors, je tiens à remercier le réseau décolonial et plus particulièrement Huria Buteja et Ramon Grossfogel pour leur invitation à participer à cette conférence historique, le Bandung du Nord, qui a pour but de créer une internationale décoloniale. Je suis très honoré de faire partie des intervenants de cette conférence et de participer aux réflexions sur la manière de tisser des relations de solidarité contre le racisme, la xénophobie, l'hétéropatriarcat, le colonialisme, le militarisme et les multiples menaces qui découlent du capitalisme mondial.
The 1955 conference in Bandung of heads of states from Asian and African countries still looms large in our historical memories. More than anything else, it represents promises of global solidarities among peoples who have suffered the violences and injustices of slavery and colonialism. It was a gathering of heads of state representing people who, in the words of Black American writer Richard Wright, were, quote, the despised, the insulted, the hurt, the dispossessed, in short, the underdogs of the human race.
La conférence de 1955, qui s'est tenue à Bandung et qui a réuni des chefs d'État de pays d'Asie et d'Afrique, est toujours présente dans nos mémoires. Plus que tout, elle représente la promesse de solidarité internationale entre les personnes victimes de violences et d'injustices liées à l'esclavage et au colonialisme. C'était une réunion de chefs d'État qui représentait, pour reprendre les mots de l'auteur noir américain Richard Wright, les personnes méprisées, insultées, blessées, dépossédées, en somme, les opprimées de la race humaine.
Other Black American intellectuals and activists attempted to attend the Bandung Conference, namely W.E.B. Du Bois and Paul Robeson. But in both cases, their passports were deauthorized by the government. From the vantage point of the U.S., the Bandung Conference not only represented a promise of global anti-racist and anti-colonial solidarities, but also a challenge to the hegemonic politics during the McCarthy era that threatened to eliminate the radical anti-capitalist, pro-socialist, and communist voices from the public sphere.
D'autres intellectuels et militants afro-américains ont essayé de participer à cette conférence, notamment W.E.B. Du Bois et Paul Robeson. Mais dans les deux cas, leur passeport avait été invalidé par le gouvernement. Vu des États-Unis, Bandung représentait non seulement la promesse d'une solidarité antiraciste et anticoloniale, mais également une attaque contre les politiques hégémoniques du McCarthyisme, qui menaçait d'éliminer les voix anticapitalistes, pro-socialistes et communistes de la sphère publique.
One may argue that the conference itself did not produce the lasting effects that one might want to retrospectively project onto that historical moment. But at the same time, it produced a collective yearning for global anti-racist solidarities and what was known as the Third World and what eventually came to be known as the Global South. At the same time, the period of the Bandung Conference represents a historical moment when activist movements were emerging to call for an end to the continuing effects of slavery and colonization.
La conférence elle-même n'a peut-être pas produit les effets durables qu'il serait tentant de projeter rétrospectivement sur ce moment historique. Elle a donné naissance à un désir partagé de voir se développer des solidarités antiracistes internationales dans ce qui était connu comme le tiers-monde et que l'on appelle maintenant Sud Global. Cette conférence de Bandung représente un moment historique au cours duquel des mouvements militants ont émergé, appelant à mettre fin aux effets durables de l'esclavage et de la colonisation.
In the United States, what we have come to refer to as the mid-20th century civil rights movement that was inaugurated by the Montgomery bus boycott took place in the same year as the Bandung Conference in 1955. This was what we now refer to as the second abolitionist movement, since it was dedicated to the disestablishment of white supremacist institutions grounded in slavery. What failed to be taken up in the aftermath of the abolition of slavery had come to a head by the middle of the 20th century.
Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques du milieu du 20e siècle, initié par le Montgomery Bus Boycott, la même année que la conférence de Bandung, Ce mouvement est connu comme le deuxième mouvement abolitionniste, puisqu'il cherchait à renverser les institutions suprémacistes blanches qui découlaient de l'esclavage. Ce qui n'avait pas été pris en compte immédiatement après l'abolition de l'esclavage était mis sur le devant de la scène au milieu du XXe siècle.
At the same time, in South Africa, in August of the following year, August of 1956, women rose up to protest the manifold oppressions of apartheid, including the extension of the pass law to women. We mark this moment by remembering the proclamation of Lillian Ngoyen, Albertina Sisulu, Helen Joseph, and thousands of others who said during that demonstration, "Now that you have touched the women, you have struck a rock, you have dislodged a boulder, and you will be crushed."
Au même moment, en Afrique du Sud, en août 1956, des femmes se mirent à combattre les multiples oppressions de l'apartheid, notamment l'application aux femmes de la loi sur le laissez-passer. Nous tenons à rappeler ce moment en faisant entendre la voix de Lillian Ngoyi, Albertina Sisulu, Hélène Joseph et de milliers d'autres. Maintenant que vous en êtes pris aux femmes, vous avez frappé un rocher. Vous l'avez mis en mouvement et vous serez écrasé.
And we also remember the life and contributions of Winnie Mandela. More than a half century later, we are gathered here in Paris to reflect on and strategize about a 21st century radical decolonial challenge to global racism, intertwined as it is with capitalism, racial capitalism indeed, and with misogyny that emanates both from the institutions of capitalism and also from the hearts and actions of our comrades. We ourselves often unwittingly perpetuate that which we see ourselves to be dismantling.
Plus d'un demi-siècle plus tard, nous sommes réunis ici à Paris pour réfléchir aux stratégies de lutte décoloniale du XXIe siècle contre le racisme mondial tel qu'il est lié au capitalisme et à la misogynie qui découle à la fois des institutions capitalistes et des actions de nos camarades. Nous perpétuons nous-mêmes, sans le vouloir, bien souvent, les mécanismes que nous cherchons justement à combattre.
It is appropriate, I think, that this conference is taking place in Paris, in France, after the election of, what's his name? And in the aftermath of the election of Macron, it is especially important to remember that France has simultaneously offered us the most beautiful slogans of democracy and some of the most enduring and most tenacious forms of racism under the guise of democratic strategies, including the biases of notions of secularity that are clandestinely anchored in a Judeo-Christian epistemology that produces forms of Islamophobia that are articulated with sexism and misogyny.
Il est pertinent que cette conférence se tienne en France, après l'élection de... Machin. en France, pays qui nous a offert de si belles phrases concernant la démocratie, mais aussi certaines des formes les plus tenaces de racisme, sous couvert de stratégies démocratiques, y compris les versions biaisées du sécularisme qui sont ancrées dans l'épistémologie judéo-chrétienne et qui produisent des formes d'islamophobie qui s'accompagnent de sexisme et de misogynie.
And so, as we approach the third decade of the 21st century, the world is discovering that anti-Muslim racism intersects with and reinvigorates anti-Black, anti-Asian, anti-Latino, and anti-Indigenous racisms. It helps to unleash new expressions of anti-Semitism, as can be seen in the U.S. through the Charlottesville attacks and recent displays of white supremacist violence.
Tandis que nous approchons la troisième décennie du 21e siècle, le monde est en train de découvrir que le racisme anti-musulman recoupe et renforce les racismes anti-noirs, anti-asiatiques, anti-latinos et anti-indigènes. Ce phénomène s'accompagne de l'expression d'un antisémitisme, à l'instar de ce qui s'est passé lors des attaques de Charlottesville aux États-Unis.
Racist violence, inflected with misogyny, is especially fatal. Marielle Franco's life was claimed by forces in Brazil that want to further arrest the movement toward racial, gender, class, and sexual equality. Those same forces assume that the arrest and imprisonment of Lula can arrest the movement of history. We need a decolonial international so that we can join hands around the planet and that our defense of racial, gender, sexual, and economic justice can powerfully echo around the world.
La violence raciste matinée de misogynie est particulièrement dangereuse. Marielle Franco a été tuée au Brésil par des forces qui cherchent à freiner le mouvement vers l'égalité des races, des genres, des classes et des sexes. Ces mêmes forces pensent que l'arrestation de Lula peut freiner l'histoire. Nous avons besoin d'une internationale décoloniale pour pouvoir travailler ensemble et faire que notre défense de la justice raciale, sexuelle et économique trouve un écho partout dans le monde.
More than a half century ago, very few women were present at Bandung. We now know that to fail to address the modes of subjugation that have kept half the planet's human population in chains can only exacerbate and extend racism, militarism, and capitalist exploitation. There can be no racial justice. There can be no peace. There can be no economic justice unless we forthrightly insist on gender justice.
Il y a plus de 50 ans, peu de femmes étaient présentes à Bandung. Nous savons maintenant que ne pas s'attaquer aux modes de domination qui ont opprimé la moitié de la population sur Terre ne peut qu'exacerber et renforcer le racisme, le militarisme et l'exploitation capitaliste. Il ne peut y avoir de justice raciale, de paix ou de justice économique sans une justice des genres.
It is not a historical accident that precisely at a time when the defeat of racism in the US was assumed to be a byproduct of the election of a Black president, movements against racist violence, the movement for Black lives, the immigrant rights movement, the defense of the earth and its environment led first and foremost by indigenous people, were reinvigorated precisely in time to dispute the assumption made by the present president of the US that the historical What is his name? I can't remember his name. to dispute the assumption that the historical clock needs to be turned inward and backwards.
Qu'à une époque où l'on croit que le racisme a pris fin avec l'élection d'un président noir, que les mouvements contre la violence raciste, le mouvement Black Lives, le mouvement pour les droits des migrants, le combat écologique pour notre planète, mené principalement par des populations indigènes, ce n'est pas un accident de l'histoire. Cela tombe pile au moment où il est nécessaire de contester le fait que le cours de l'histoire soit en train de s'inverser.
Struggles against institutionalized police violence in the US are related to similar struggles in Europe, Australia, and indeed also in Latin America, Africa, Asia, and the Middle East. We in the United States have indeed learned how to value the solidarity of Palestinian activists who, as they tenaciously continue their struggle against the Israeli occupation, help to spark international solidarity for protesters in Ferguson, Missouri, some 4 years ago, which in turn invigorated the Black Lives Matter movement. It is today difficult to imagine the rise of the Black Lives Matter movement without the assistance of the Palestinians.
Aux États-Unis, nous avons appris l'importance de la solidarité avec les militants palestiniens, qui, tandis qu'ils luttent contre l'occupation israélienne, ont contribué à créer une solidarité internationale avec les manifestants de Ferguson, Missouri, il y a 4 ans, qui ont mené au Black Lives Matter Movement. On ne peut penser la naissance de ce mouvement sans les Palestiniens.
We in the North, who are committed to purging our societies of racial violence, have to guarantee that the call for justice for Palestine echoes throughout our struggles and that the BDS movement achieves the statue of the anti-apartheid boycott in the 1980s.
Nous, qui dans le Nord luttons contre la violence raciste, devons garantir que l'appel pour la justice en Palestine trouve un écho dans nos luttes et que le mouvement BDS rencontre le succès du boycott anti-apartheid des années 80.
Our connection with Palestine has taught us that as we call for the abolition of prisons, we must also seek to abolish the shaping of our quotidian lives by new forms of carcerality. Our struggle against police violence, we have learned, cannot be won simply by calling for the prosecution of individual police people, but rather by questioning of the very possibility that the police can be entrusted with the security of our communities. We call for the freedom of Mumia Abu-Jamal, of Lynette Peltier, of Georges Ibrahim Abdullah. We have learned to say, abolish the prison, abolish the police, or rather imagine a world in which we no longer need to depend on the police and incarceration as the guarantor of security in our society.
Notre lien avec la Palestine nous a appris que, tandis que nous exigeons l'abolition des prisons, nous devons également abolir les nouvelles formes carcérales qui enferment notre quotidien. Notre lutte contre la violence policière ne peut être couronnée de succès si nous nous contentons d'exiger la poursuite en justice de policiers isolés. Nous devons remettre en question l'idée même que la sécurité de nos communautés puisse être entre les mains de la police. Ou plutôt, nous devons imaginer un monde dans lequel la police et l'incarcération ne sont plus les garants de notre sécurité.
And so, as we forge solidarities for struggles in Palestine, in Brazil, in Syria, in Turkey, we also reflect on solidifying connections among anti-racist, anti-capitalist movements in the global north. The great challenge of our time is to render understandable the migrations of our era as linked to persisting colonialities and the resultant racisms of our time, and to welcome those who have been compelled by war, by capitalist economic restructuring, by neo-colonial corruption, to leave their homes and to cross borders in search of a more habitable living space.
Tandis que nous créons des réseaux de solidarité avec les luttes en Palestine, au Brésil, en Syrie et en Turquie, nous cherchons à renforcer les liens entre les mouvements antiracistes et anticapitalistes du Nord. Le grand défi de notre époque est de rendre intelligibles les migrations, telles qu'elles sont liées aux colonialités persistantes et au racisme qui en découle. Nous devons accueillir ceux que la guerre, la restructuration économique capitaliste, la corruption néocoloniale ont poussé à quitter leur maison et à traverser des frontières en quête d'espaces plus habitables.
Another great challenge of this era is to recognize that the problems of our time exceed the capacity of the nation state to solve them. And that we can no longer think in the narrow and discriminatory terms of documented citizenship. A decolonial approach to internationalism calls for a reconception of global connections that precisely decenters the nation and imagines future possibilities of a planet in which the nation state is no longer regarded as the most appropriate form of human community.
Un autre des grands défis de notre époque est de reconnaître que les problèmes actuels ne peuvent être résolus par les États-nations et que par conséquent, la catégorie étroite et discriminante de citoyenneté n'est plus pertinente. Une approche décoloniale de l'internationalisme nécessite une nouvelle vision des relations mondiales qui décentre la nation et imagine de nouvelles possibilités pour un monde dans lequel l'État-nation n'est plus vu comme la forme de communauté la plus adaptée.
It is therefore up to us to model new relations and to create new forms of solidarity, even as we struggle to overcome the old relations. Thank you very much.
I guess it might not be necessary. I think that. Oh, the beautiful
beautiful text.
Thank you. Thank you so much for the translation.
Yeah, thank you.